Donc le fait qu'il y ait des personnes qui sont les juges et qui aient des connaissances en matière de commerce, dans les cas où il y a ce type de preuve écrite, ça n'a pas en soi une extraordinaire influence. Le problème inverse qui se pose dans des cas, beaucoup dans des cas qui ne concernent pas le crédit et dans un certain nombre de cas qui concernent le crédit, c'est quand on a en fait que des paroles, que les parties soient illettrées, qu'elles tiennent mal leur compte, que ce soit des discussions purement verbales sur des prix prévus et après on dit que c'était pas ce qui était prévu, etc. Ou qu'on a des prix plus un moins notariés, comme des correspondances commerciales, mais qui nécessitent d'être amputées pour comprendre ce que voulaient dire les gens, est-ce que c'était vraiment une promesse ou juste une proposition, etc. Donc dans ces cas, au contraire, où on n'a pas de ce qui est considéré comme preuve écrite bien carrée par la jurisprudence, là le tribunal est beaucoup moins expéditif. Et une des choses intéressantes qu'on peut voir en se plongeant dans les dossiers, même si on n'a pas d'échantillon représentatif, c'est une petite idée de délai. Donc évidemment, sur des très grosses affaires comme le Yannis, ça peut durer des dizaines d'années, mais sur une affaire nettement plus petite, qui est une de celles que je vous ai mises, ça dure des dizaines d'années aussi pour quelques dizaines de milliers de francs d'époque, ce qui est à la fois beaucoup, mais pas du tout un impact national comme ça. Donc dans ces cas-là, on a des procédures effectivement beaucoup plus longues, et où la notion de est-ce que les parties sont de bonne foi, est-ce que je suis suffisamment commerçant pour comprendre ce qu'ils ont voulu dire, et d'aller multiplier les interrogatoires, les témoins, le fait d'aller voir leurs comptes, leurs correspondances, devient très très important. En fait, en grosse masse, on pourrait dire les cas comme ça qui sont plus axés sur le décryptage des intentions et tout, c'est pas forcément ce qui concerne le crédit au sens le plus strict, c'est-à-dire les affaires des faits de commerce, etc. Ça va être identifié au préalable comme des histoires de vente de biens, de qualité de biens, de contrat de travail, d'assurance, de chemin de fer, de bateau, de plein d'autres choses. Évidemment, ce qui est intéressant quand on rentre dans ces affaires d'autres choses, c'est que le crédit en général, il est tout le temps présent, puisqu'il est un peu présent dans toutes les transactions. Et donc, en allant dans le détail de certains de ces cas ordinaires, on peut voir aussi plein de façons de se faire crédit, de mettre des intérêts ou pas, de façon implicite, où il y en a un qui avait compris qu'il y avait des intérêts, l'autre non, etc., qui nous rappelle presque ce qu'on avait vu sur les sources médiévales, en fait, dans la somme implicite qu'il y a derrière. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir les rapports d'arbitre, par exemple, qui sont aussi beaucoup plus lisibles que les jugements, ou les jugements détaillés qu'on arrive à lire. C'est des sources qui ne racontent qu'une petite partie des histoires, donc si on voulait faire une vraie narration d'un cas comme un cas, on devrait aussi rebondir, ce qui est parfois possible, parce qu'il y a mention de jugements antérieurs, par exemple, des choses comme ça, parce qu'on a les noms des gens, on peut voir s'ils ont fait faillite, et souvent, en fait, des affaires qui ne sont pas considérées comme faillite sont liées aux suites d'une faillite d'une autre façon. Donc on peut rebondir ou pas, mais même quand on ne peut pas rebondir, on a des petites tranches de vie et de transactions, et le jugement qui est porté dessus par les arbitres ou les juges qui est intéressant. Par exemple, une des choses que j'ai trouvé frappante dans les rapports que je vous ai mis, c'est deux rapports où l'arbitre commence par dire qu'il est vraiment catastrophé d'avoir à faire un rapport, alors que c'est une si faible somme. Et effectivement, ça mène à la réflexion que je vous mettais un petit peu aussi sur les frais de justice, hein, et le cas du type qui veut se faire payer et qui engage des frais nettement supérieurs au montant de la dette, en fait. Alors évidemment, dans l'espoir aussi qu'à la fin, il sera également remboursé de ses frais, mais ça pose des questions sur à un moment, est-ce qu'on veut se faire payer pour le principe aussi, pour faire un exemple, etc. Pardon.
Le premier, dans les sources.
Ouais, dans les rapports d'arbitre, en fait, le premier et le dernier commencent par dire que c'est vraiment nul de faire autant de procédures pour des si petites sommes, en fait. D'ailleurs, les sommes sont très différemment petites dans les deux cas. Mais c'est vrai que le rapport lui-même, en fait, engage des nouveaux frais. Donc ça, c'est un aspect intéressant, et pour pas trop détailler, plutôt qu'on discute, un des autres aspects intéressants trouvés dans la première des sources, c'est un débiteur qui utilise une défense, manifestement, qui est très très facile à démonter, pour dire qu'en fait il n'est pas débiteur parce qu'il avait un billet. Enfin, il peut donner un billet pour rembourser, il n'y a pas de problème et tout ça. L'arbitre dit c'est évident que ce billet n'a rien à voir avec l'affaire, etc., c'est nul comme défense. Mais il dit, eu égard au peu de connaissances des termes commerciaux qu'on peut supposer à l'obligé, cette circonstance ne serait pas assez concluante. C'est-à-dire, si c'était un banquier qui me disait ça, j'aurais juste rigolé et passé le rapport. Mais comme c'est manifestement quelqu'un qui n'a pas l'habitude des effets de commerce, il cherche un argument supplémentaire pour dire qu'il a tort quand même. Donc je trouve que c'est assez intéressant ce type de remarques qu'on retrouve assez régulièrement, ça revient aussi à ce qu'on commençait à dire avec Laurent sur les comptes, c'est que les juges et les arbitres, dans les cas où ils entendent faire des enquêtes approfondies comme ça, ils tiennent aussi compte de ce qu'ils ressentent être les compétences des parties pour adapter ce qui est exigé d'eux. Et je pense qu'ils jugeraient différemment si c'était un banquier bien assis qui évoquait ce genre de choses. Donc du coup, là, sur ce cas précis, on voit à la fois un tout petit peu comment ça se passe, la vente de pièces de vin par consignation entre Mâcon et Paris dans un cas précis. On ne sait pas du tout si ça se passe tout le temps comme ça. Mais on a des jugements de l'arbitre sur ce qui est normal, ce qui est crédible, etc. On a des petits extraits de correspondance. Enfin, on a plein de petits indices qui, à mon avis, peuvent être utilisés plus pour bâtir des hypothèses qu'après il faudrait essayer de valider avec d'autres sources si c'est possible, mais qui peuvent avoir un rôle intéressant, je trouve, en termes de réflexion sur les hypothèses, dans la mesure où c'est tout un tas de pratiques très très compliquées, très très bizarres et très très pas prévues par les manuels, qu'on n'aurait aucun autre moyen de saisir. Enfin, voilà en gros moi, ce qui m'a intéressé notamment en préparant ce tout petit dossier. Mais si vous avez à la fois des questions pour ceux qui ont eu le temps de le lire, des commentaires, des discussions, des envies de savoir mieux ce qu'il y a dans ces sources-là, pour le 18e et le 20e, je connais moins, mais j'ai une petite idée, on peut en parler. Donc par la question sous-jacente étant, est-ce qu'on peut utiliser des sources judiciaires pour faire l'histoire de pratique, en fait ça vaudrait aussi pour les justices civiles, criminelles, etc. Ça a été beaucoup fait et donc quand même pas mal discuté aussi ces derniers temps, mais sachant qu'en effet non seulement c'est des cas qui sont quelque part mal finis, mais comme le rappelait Laurent, il y a beaucoup de cas qui ne finissent pas bien, mais les gens s'arrangent quand même si on va aller dans un tribunal, donc ça n'aide pas ce type de pratique.
Ouais, je pense que la première question que je trouve qui ressort. Ça fait longtemps en fait, qu'elle ressort ici, c'est comment le crédit pose la question du rapport au droit.
Mm-hmm.
Et on a cette espèce d'intuition du fait que si on a recours au droit, ça se passe mal, et si on fait ça bien, on s'arrange entre soi et que ça se passe bien.
Ouais.
Et je me demande si on. Alors, le problème, c'est toujours pareil, c'est ce que tu dis, c'est là, toi, tu as que ce qui arrive au droit. Et très souvent, on a que ce qui arrive au droit. Parce que c'est ça qui laisse des traces. Donc, s'il n'y arrive pas là, mais quand même, alors nous, c'est un petit cas et tout, mais on a, c'est pas du tout le même type de contentieux, hein, mais il y a donc des procédures de crédit, on voit les intégrés où l'entrepreneur décide d'aller faire un contentieux avec, d'abord elle-même, elle essaie de gérer ça avec une lettre, et puis après, elle fait appel à un métier, donc il y a une sorte de procédure graduée, et essayer de voir, quand c'est qu'on a recours au droit.
Mmh.
Et je me demande, alors c'est peut-être, on a vraiment ce truc de dire, quand on s'entend bien, on ne va pas avoir recours, et quand on s'entend mal, c'est comme si le droit était
ouais.
En fait. Et je me demande si ça, on peut essayer de travailler sur cette question.
Ouais.
Pas tout dire c'est faux, hein, c'est peut-être totalement vrai, c'est bien sûr, mais quand même, ça, c'est assez implicite que ça et on n'a pas beaucoup de moyens de vérifier, donc en tout cas, c'est vraiment, là on voit tellement bien comment le droit est central en fait dans quelque chose de très dit. On l'a vu plein de fois avec l'interdit d'usure, avec le Moyen-Âge, quoi. On a pu tout le temps revenir sur cette question du droit, donc c'est vraiment là,
Mais je pense que enfin, dans certains cas, c'est évidemment pas tous les arrangements du coup, mais on a les cas qui viennent au droit alors qu'on a essayé avant de s'arranger, qui sont quand même un peu racontés de cette façon-là, donc ça peut permettre de réfléchir comment ils sont passés l'un à l'autre, et notamment, dans ce cas, ça peut être parce que l'arrangement, en fait, c'était un rapport de force hyper déséquilibré, donc pas forcément quelque chose qui se passe bien, et qu'une des parties se dit finalement le droit se passe mal.
Peut-être que ça se passe mal quand tu as un recours au droit d'abord,
c'est la médiation
voilà.
En fait.
Ouais, et justement, c'est la nature de cette médiation, je trouve que c'est tellement implicite dans un système de gradation entre soi juste le tribunal.
Voilà. Une des choses que je veux montrer, c'est que la gradation elle est plus compliquée, c'est-à-dire que dans le tribunal il y a du retour d'entre soi.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une décroissance incroyable de recours au contentieux à mesure que la relation devient en fait plus éloignée socialement. C'est-à-dire qu'au début, on va dire vite, elle s'est crédit à des gens qu'elle connaît beaucoup. il y a des contentieux énormes. Et ça marche pas du tout, en fait. Et plus elle routinise la procédure de crédit, même d'un point de vue matériel, avec des fiches, des tenues de compte plus précises, elle-même, moins elle a recours au droit. Donc, c'est aussi, et c'est aussi que le lien, pourtant, la relation, elle est plus distante socialement avec ces gens. Donc, c'est un peu contradictoire par rapport à tu prêtes à tes copains, tout va bien, tu prêtes moins, ça se passe mal, en gros, enfin, pour dire juste. Et là, justement, je me dis, mon cas professionnel est intéressant. Je pose juste des questions qui n'ont rien à voir avec ce qui m'intéresse vraiment, comme ça, ma bien méchant de travailler, de vraiment dans le même bureau. Je ne connais rien, et j'imagine hyper bien les conseillers sur la sociologie de ces juges.
Ouais.
Donc, si tu pouvais nous donner deux, trois aspects. Commerçant, c'est-à-dire quoi les juges. Je vois bien la chambre de commerce, à toi et à toi aux autres, et là les juges, j'aimerais bien savoir. Et puis, est-ce que on a, alors ça c'est totalement perso, dans ce genre de truc, est-ce qu'au 19e, de temps en temps, on parle de la nationalité des commerçants ou pas du tout? J'espère que non, et si c'est ça, est-ce que tu as vu un changement par rapport à ça?
Sur la deuxième question, j'ai pas assez regardé près encore de sources pour le voir. Par contre, c'est intéressant sur les débats sur est-ce que les juges eux-mêmes justement doivent être français je crois qu'il y en a un peu sur la contrainte par contre aussi, non, c'est pas évoqué. Pour la contrainte par contre, Et pour est-ce que les juges et pour les prud'hommes aussi, du reste, c'est vraiment la deuxième république en fait. La question elle s'est jamais posée avant ou elle venait à partir d'un cas et on disait bon non, il n'y a rien qui est interdit, il n'y a pas de problème. Et ça arrive, ça arrive vraiment en 48 quoi. Notamment, dans les deux cas en fait, surtout sur les prud'hommes, il y a une grosse démocratisation du mode d'élection, mais qui va avec la condition de nationalité pour être éligible, qui n'existait pas et qui n'avait pas été discutée avant. Sur le contenu des affaires, il faudrait voir. En fait, une des spécificités de Paris, évidemment, c'est qu'il y a très peu en pourcentage, mais sans doute plus qu'ailleurs, d'affaires internationales vraiment. C'est-à-dire y compris avec des problèmes inextricables, genre ici la faillite, elle est à Londres, qu'est-ce qu'on applique, etc. Enfin, plein de questions sur le droit applicable qu'on voit très très bien dans les manuels de jurisprudence, en fait. Et là, la raison serait de... Ça, je vais pas le faire pour mon livre, mais j'aimerais bien regarder un moment, ou si quelqu'un veut regarder, ce serait intéressant. Repartir des manuels de jurisprudence sur quel est le droit applicable, etc., dans les cas internationaux. Et par contre, essayer de redescendre éventuellement jusqu'au jugement de premier degré pour voir si les juges commerçants, ils ont là-dessus des opinions différentes des juges juristes. Mais ça, il y a pas mal. Par contre, sur par exemple, les commerçants qui seraient à Paris, mais on évoquerait leur nationalité, je sais pas, mais mon intuition est plutôt non. En revanche, il y a un cas rigolo, je mentionne aussi parce qu'il est photographié dans l'inventaire, ce qui fait que j'ai pas pu voir la source parce qu'elle était à la photo. En fait, il y a deux cas, je crois, d'arbitrage demandé au consistoire israélite de Paris en 1810, parce que, on se dirait justement, c'est sa proximité, tout ça, genre, ouais, les gens ils sont juifs, alors on se fait arbitrer par le consistoire, mais pas du tout. C'est parce que c'est des effets de commerce qui sont écrits en hébreu, d'accent polonaise en plus, et donc qu'on leur demande de qu'est-ce qu'il y a écrit là, et aussi c'est quoi leur... Je suis en train de me demander comment c'est formulé dans la source. Je pense que c'est un peu en hébreu version polonaise parce que c'est des formules qui ont une valeur juridique ou au moins de coutume en fait, donc qui sont d'origine plus ou moins médiévale évoluée. Il faut que je retrouve, et c'est con parce que je voulais le retranscrire celui-là, quelle est la formule dans la source. C'est bizarre, mais en fait c'est donc pour une raison à la fois linguistique et de connaissance de coutume. On leur demande si c'est normal de faire un effet de cette façon-là en Pologne en fait. Donc ça c'est un cas rigolo, mais c'est plus une affaire internationale. Voilà. C'est une belle affaire parce qu'en plus c'est un cas qu'on retrouve très souvent en fait, qui est vraiment intéressant aussi sur formel informel et qu'on retrouve chez Erika, de gens de la même famille en fait. Je crois c'est la bru qui attaque le beau-père plus ou moins, enfin c'est plus compliqué, mais le conflit sous-jacent il est là, qui viennent au tribunal pour résoudre des problèmes de crédit entre la famille très étroite quoi. Et mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce qu'écrit le consistoire, après on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment, c'est vraiment beaucoup plus se positionner sur le terrain de c'est quoi la coutume en Pologne et qu'est-ce qu'on peut raisonnablement en attendre que de on a essayé de réconcilier.